Bon, ce que je vous propose, c'est de réfléchir sur un texte de Claude-Louis Combet, un texte qui s'intitule tout simplement « Blanc », le titre. C'est un texte qui a été publié en 1980. Alors, vous connaissez peut-être pas beaucoup Claude-Louis Combet. En général, quand j'en parle, les gens ne le connaissent pas. C'est néanmoins un écrivain important. Claude-Louis Combet, disons, c'est pas exactement un écrivain à la mode, si on peut dire. Et je dirais que même à l'université, même dans un département d'études littéraires qui s'intéresse par ailleurs beaucoup à la littérature contemporaine, c'est une œuvre qui est pratiquement ignorée. Or, Louis Combet écrit depuis 45 ans. Il a presque une cinquantaine de livres, de récits, de romans et d'essais sur l'écriture. Alors, si vous voulez, l'écriture de Louis Combet se situe entre un intérêt très marqué pour la sainteté, le récit hagiographique, l'expérience mystique comme expérience limite, et le récit fantasmatique où on peut lire l'obsession pour une sexualité transgressive et régressive, autre expérience limite. Et tout ça se joue dans des récits qui sont très ambigus, où on met en scène l'érotisme comme expérience religieuse. Alors, chez Louis Combet, le récit érotique se décline comme un exercice de contemplation, très souvent, en tout cas, et où le regard passe par l'épreuve des formes, et en particulier les formes physiques, charnelles, bref, ce qu'on pourrait appeler les formes incarnées. Le texte dont je vais parler ce matin n'est pas un texte où la composante érotique est très forte, ce qui est assez rare chez Louis Combet, mais c'est un texte qui voudrait être lu comme un texte mystique, en partie. En fait. Ce qu'on nous décrit dans Blanc, mais bienvenue. Ce qu'on nous décrit dans Blanc, c'est une ascèse, et par conséquent, c'est une épreuve. L'événement dont on parle est indissociable de l'angoisse vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler l'illimitation du corps, la dissolution des limites. Le sujet qui écrit se représente à travers un événement singulier, je vais en parler tout à l'heure, où il se voit en train de disparaître. Ou plutôt, il se voit en train de se fondre dans le blanc. Il se fond dans le blanc jusqu'à ce que plus rien ne le distingue du blanc. Alors, si vous voulez, pour se donner une image, l'image que j'ai lorsque je lis le texte de Louis Combet, c'est l'image de ce papillon qui est derrière moi, qu'on pourrait dire gris sur gris, qui se confond avec la pierre. Ici, le sujet se confond blanc sur blanc, d'une certaine manière. Alors pour moi, c'est cette image-là qui vaut pour une image du sujet d'écriture lui-même. Alors, à la fin de ma présentation, je vous dirai pourquoi cette image du sujet, cette image subjective, a aussi quelque chose d'obsessionnel. Parce que ce que je suis en train de présenter ce matin, c'est une réflexion qui s'inscrit de façon plus large dans une réflexion sur les écritures obsessionnelles. Alors, le texte de Louis Combet est un texte qui est très particulier, qui est difficile à décrire, parce que le texte ne raconte pas de façon linéaire l'œuvre de la disparition, le mouvement du sujet vers sa propre disparition. C'est comme si la disparition du sujet, sa fusion dans le blanc, ne faisait pas récit, pas complètement. On est plutôt devant une écriture qui n'en fait jamais assez pour dire l'ambiguïté de ce qui se passe, l'ambiguïté de la disparition. Donc, c'est un discours qui a quelque chose de circulaire, si vous voulez, dans la mesure où on est plutôt dans le ressassement, vous savez, cette espèce de rumination mentale qui caractérise le discours obsessionnel, ça fait un peu cet effet-là quand on lit le récit de Louis Combet. Donc, un ressassement pour un sujet qui n'en finit plus de dire qu'il disparaît. En somme, l'œuvre de la disparition, c'est quelque chose qui est continuellement en train de se produire du fait qu'on le dise. Or, on pourrait dire que le sujet, qui est au fond le sujet de l'écriture, le sujet de l'énonciation, se retrouve dans une posture que moi je trouve paradoxale. Et encore là, il y a quelque chose d'obsessionnel dans ce type de paradoxe. C'est qu'à force de dire qu'on disparaît, on n'en finit plus d'apparaître. On apparaît comme sujet de l'énonciation, sujet de la disparition. Bon. D'où le fait, selon moi, que c'est pas la même chose de disparaître et de dire qu'on disparaît. Bien. Alors, l'intérêt de présenter un texte comme celui-là dans un colloque qui est dédié à la question du miroir, c'est, du moins ce que j'aimerais essayer de vous expliquer, c'est que ce que j'appelle l'œuvre de la disparition, la dissolution des limites du corps dans le blanc, est présenté comme un effet de miroir où le corps devenu blanc ne se distingue plus d'une tache blanche qui apparaît à la place du miroir. C'est très compliqué à décrire, hein, mais j'essaie de vous donner une idée assez précise de comment ça se formule. Donc le sujet se voit devenir blanc sur blanc, un peu comme le papillon qui se voit gris sur gris, mais cet effet-là lui est renvoyé par un miroir, par un dispositif spéculaire. C'est totalement imaginaire, puisqu'il n'y a pas de miroir, il n'y a pas l'objet du miroir. Donc, la chose se présente de la façon suivante. Le narrateur, le récit commence comme ça, le narrateur nous dit qu'il est en train d'écrire dans sa chambre. Il nous parle plus particulièrement du mur qui est en face de lui, qui est en face de lui lorsqu'il écrit, vis-à-vis duquel il se sent familier. Ce mur à l'abri duquel je vivais m'était infiniment familier, au point où il le voit comme un miroir. Ce mur n'était orné d'aucune image et d'aucun objet. On comprendra que je pouvais me tenir des heures et des jours en face de lui, et finalement des années, comme en face d'un miroir, comment dire, d'un miroir intérieur, renvoyant constamment le reflet de ma propre immobilité, de mon indifférence aux choses, et de mon désintérêt pour les passions humaines. Donc, un mur comme un miroir, infiniment familier, qui non seulement est le support de la rêverie de l'écrivain, mais aussi le support d'une identification à lui, puisque ce mur, qui est le miroir du sujet, est aussi le reflet de sa constance et de son immobilité. Le mot « immobilité » revient continuellement. C'est le reflet de son indifférence aux choses et de son désintérêt pour les passions humaines. Donc, voilà sur quoi on part. Jusqu'au jour où se produit l'événement, c'est-à-dire que dans ce miroir, sur ce mur, on remarque une tache blanche circulaire, qui est comme défaut dans une vieille tapisserie, mais qui va progressivement s'agrandir pour s'étaler sur tout le mur, avaler la chambre, et gagner le corps du narrateur, un peu comme un effet de contamination sur lui. Okay? Louis Combet a aussi écrit un texte qui s'appelle « Le mal de blancheur ». Ici, le blanc se répand comme une maladie, ça devient une gangrène, c'est une lèpre. Ça se répand pour progressivement désubstantialiser le monde, c'est un mot qu'on retrouve dans le texte, et donc engloutir, avaler, dévorer la réalité extérieure, comme si, je cite, « la matière se dévorait elle-même ». C'est curieux comme phénomène. Je dirais que le récit en fait beaucoup pour décrire ce phénomène extraordinaire et fantastique, mais le phénomène est aussi reconnu par le narrateur, en même temps comme le reflet de sa propre intériorité. C'est-à-dire que ce qui se passe au dehors, c'est ce qui m'arrive en dedans. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas tant que le monde est en train de disparaître, c'est moi, au fond, qui a toujours été un être effacé, estompé, sans relief. Bref, un être qu'on ne remarque pas, qui ne veut pas déranger, qui s'efface. Il me semble bien que j'étais ce que j'avais toujours été, un être effacé, à l'abri de ses propres désirs, et à l'écart des conflits qui animent le monde. Alors, vous voyez, c'est toute la différence entre le reflet imaginaire qui fait image dans le miroir et le reflet au sens de l'identification symbolique. Pas du tout la même chose. Au fond, si on dit que ce qui se passe au dehors, c'est ce qui m'arrive en dedans, c'est moi qui a toujours été un être effacé, de dire ça, ça tasse la dimension fantastique et, du phénomène, c'est que finalement, on rabat le phénomène de la blancheur qui s'étend et qui s'étend sur moi, ça ramène tout ça à quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre, en fait, qui au fond n'est pas métaphysique ni fantastique. Et du coup, on retrouve dans le récit une sorte d'équation que je dirais de la façon suivante. Il y a une équation entre être effacé et immobile au sens de faire le mort. Faire le mort. Comme le papillon qui est là qui fait le mort. Alors justement, là encore, on est en face d'une posture subjective qui nous rappelle la posture de l'obsessionnel. Je vous souligne que Lacan décrit l'obsessionnel comme un acteur qui joue son rôle comme s'il était mort. C'est pas mal, ça. Un acteur qui joue son rôle comme s'il était mort. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça me conduirait trop loin, mais disons que c'est précisément la posture de l'écrivain de Louis Combet dont c'est la condition d'écriture que de faire le mort pour écrire. Pas seulement dans ce récit-là, mais en général. Vous pouvez, par exemple, aller lire Le recours au mythe, qui est un peu son autobiographie, où il explique que la disparition de l'écrivain, c'est ce qu'il faut rechercher pour que l'œuvre puisse advenir. C'est une posture un peu standard. On connaît bien ce type de position. Mais pour lui, Combet, c'est plus radical. Il s'agit de diminuer, de s'effacer, de s'annihiler, devenir rien, écrit lui Combet. Là, je le cite dans Le recours au mythe, en sorte que le livre, élaboré dans un anonymat non pas fictif, calculé, mais spirituellement nécessaire, prit tout simplement la place du vivant. Alors, si on est attentif au livre de Louis Combet, je reviens à son récit intitulé Blanc, dans lequel le narrateur dit écrire la biographie d'Hubertin de Casals, le théologien franciscain qui a existé. Écrire, c'est aussi faire en sorte que soit prise la place du vivant par le texte, et par conséquent, écrire, c'est se désigner soi-même comme mort, puisque la place du vivant est occupée par autre chose. Blanc, c'est le récit de la disparition qu'il a fallu suivre pour qu'advienne comme unique réalité vivante le livre qu'on est en train de lire. Vous voyez aussi comment on est toujours sur une logique spéculaire. C'est l'écrivain se regardant écrire qui est en cause. Dans l'œuvre de la disparition, dans le consentement à l'effacement, ce dont on parle, c'est l'image du sujet s'observant lui-même et se regardant disparaître. Alors, je vous disais tout à l'heure que cette lecture que je suis en train de mener sur Louis Combet, qui est une lecture, en ce qui concerne Blanc, qui est une lecture très partielle parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails du texte, je vous disais tout à l'heure que c'est une lecture qui s'inscrit dans une réflexion sur les écritures obsessionnelles. Je vous ai déjà indiqué comment l'œuvre de Louis Combet comporte des traits obsessionnels. Puisque le sujet de l'écriture nous renvoie à une posture subjective qui est au fond un peu particulière. On pourrait approfondir notre compréhension de la position de l'obsessionnel, qui lui aussi est peut-être un être effacé, un acteur qui joue son rôle comme s'il était mort, si on est un peu plus attentif à ce que le texte nous donne, non pas comme l'événement de la disparition, la blancheur qui s'étend dans laquelle je me fonds, mais si on est plus attentif à ce que l'écrivain nous dit lorsqu'il parle de sa profonde et essentielle immobilité, sa passivité totale, son inertie complète pour un sujet qui donc consent à la disparition tout en se regardant dans le miroir. Alors, si vous me permettez, je vais faire un détour avec pour vous parler d'un autre texte qui est très différent, qui relève d'un tout autre contexte. C'est pas un texte de Louis Combet, mais qui resitue autrement la position de l'obsessionnel, notamment dans ce rapport à la visibilité. Le texte auquel je fais référence, c'est un texte de Roger Caillois. Vous voyez que on est ailleurs. C'est un texte qui a été publié en 1935 dans la revue Minotaure, la revue surréaliste, à l'époque où Caillois était encore proche du surréalisme. Le texte, vous le connaissez peut-être, c'est un texte qui s'intitule « Mimétisme et psychasthénie légendaire ». C'est un texte que Caillois écrit dans la foulée de toute sa réflexion sur le mimétisme animal. Vous savez que Caillois a écrit un texte à peu près en même temps sur la mente religieuse. C'est un texte qui a beaucoup compté pour lui, puisqu'il va le traîner, entre guillemets, jusque dans les années 60. Caillois, dans les années 60, était convaincu que son texte sur le mimétisme, la mente religieuse, était ce qu'il avait fait de plus déterminant dans toute son œuvre. Donc, Mimétisme et psychasthénie légendaire, c'est un texte qui a une composante surréaliste très forte. Là, on est en 1935, puis c'est la revue Minotaure quand même. Ce qui m'intéresse, c'est la réflexion qu'il mène entre le mimétisme animal, puis on en a un exemple ici, c'est exactement de ce type-là de mimétisme que Caillois parle, et ce qu'il appelle la psychasthénie. Alors, il faut savoir que le mot de psychasthénie est un mot que Caillois emprunte au vocabulaire de la psychiatrie française. C'est un mot de Pierre Janet. Or, lorsque Pierre Janet décrit la psychasthénie, il décrit le même mal que ce que Freud décrit lorsqu'il parle de la névrose obsessionnelle. Donc, psychasthénie, c'est la névrose obsessionnelle au sens de Janet. Évidemment, ça comporte toutes sortes de nuances cliniques et théoriques, mais au fond, on décrit le même mal. Donc, dans ce texte, « Mimétisme et psychasthénie légendaire », Caillois propose une sorte, j'appellerais ça un art poétique expérimental, un art poétique surréaliste fondé sur une analogie entre les phénomènes de mimétisme dans le monde animal, et en particulier le monde des insectes, et la description de certains troubles de la personnalité dans ses rapports à l'espace. Troubles de la personnalité, rapport à l'espace, quand le sujet est pris dans un rapport spéculaire à l'espace. Okay? On retrouve tout ça dans Janet, la question de la psychasthénie, les troubles de la personnalité. À l'époque, on ne distinguait pas très bien psychasthénie et schizophrénie. névrose et psychose, chez Janet, c'est pas clair. Enfin. Mais ce qui est tout d'abord frappant dans le texte de Caillois, qui est un texte vraiment extraordinaire, c'est le chemin qu'il prend pour décrire le mimétisme animal lorsque certaines espèces déploient, comme vous le savez, d'étonnantes stratégies naturelles pour disparaître, comme si le vivant était pourvu d'un camouflage naturel. Or, Caillois va s'efforcer dans ce texte de renverser ce qui est pour tout le monde une évidence à l'époque, c'est-à-dire que ce qu'on prend pour un camouflage s'apparente plutôt à une recherche du semblable. Du coup, on ne disparaît pas parce qu'on est camouflé, on disparaît parce qu'on est semblable à quelque chose d'autre. C'est pas tout à fait la même chose. Pour Caillois, le mimétisme s'apparente à une tentation. Il parle d'une tentation de l'espace, une poussée vers le semblable, laquelle n'a aucune utilité spécifique, c'est-à-dire que ce n'est pas une adaptation au milieu, ce n'est pas la survie de l'espèce qui est en jeu, c'est une tentation de l'espace, voire une obsession de l'espace, pour un être qui est en quelque sorte possédé par l'espace qui l'entoure, dans une sorte de transe, que Caillois décrit. Pour un être qui se voit, par conséquent, dépossédé de lui-même. Il devient l'objet de l'espace. Donc, il est dépossédé de lui-même. Alors, je vous lis un extrait du texte de Caillois, ça va vous donner une idée du ton. L'espace semble à ces esprits dépossédés. On parle de l'esprit psychasthénique, hein, c'est pas les sectes. L'espace semble à ces esprits dépossédés une volonté dévoratrice. L'espace les poursuit, les cerne, les digère dans une phagocytose géante et à la fin, il les remplace. Donc, c'est l'espace qui remplace l'individu, pour reprendre les mots de Cailloux. L'individu cherche à se voir d'un point quelconque de l'espace. Lui-même se sent devenir de l'espace. Par conséquent, il est désorienté. Il est semblable, non pas semblable à quelque chose, mais simplement semblable, et il invente des espaces dont il est la possession convulsive. Vous voyez, c'est assez halluciné, là. Cailloux admet lui-même qu'il a écrit ça dans une espèce d'expérimentation mystique, dans une espèce de transe. C'est très spéculatif, mais on s'en fout. Je vous l'ai dit, c'est quelque chose comme un art poétique expérimental, hein, un peu comme la paranoïa critique de Dali à la même époque. Ce qui est important, c'est de voir comment Cailloux décrit quelque chose qui s'apparente à un drame. Non pas la possibilité de surmonter les dangers de la prédation, non pas une habile évolution des espèces à des fins d'adaptation, mais il décrit quelque chose comme la puissance de l'espace à posséder celui qui n'est plus qu'une tâche indistincte dans le tableau de la nature. Il ne s'agit pas de se fondre volontairement dans l'espace, il s'agit de s'y abandonner. Je dirais même qu'il s'agit de se laisser fondre, au sens de laisser faire. Abdiquer. C'est très particulier comme réflexion. Le sentiment psychasthénique d'être cerné, enfermé en soi-même, le sentiment d'être immobile, de ne pas pouvoir bouger, inerte, ce sentiment-là est en quelque sorte extraposé au dehors, dans un rapport à l'espace qui, au lieu de protéger le vivant, on pense que le papillon se protège. Non. Pour Cailloux, au lieu de protéger le vivant, c'est le vivant qui s'expose à une sorte de dissolution de lui-même dans l'espace. Entre mimétisme animal et réalité subjective, Cailloux décrit une dramatique du vivant où l'être mimétique n'est plus du côté de la vie, mais attiré par l'inanimé, l'indistinct, la mort. Dans le mimétisme, écrit Cailloux, la vie recule d'un degré. D'ailleurs, on pourrait faire le rapprochement très facilement avec la pulsion de mort au sens de Freud. Bien, alors Lacan fait allusion à ce même texte de Cailloux dans le stade du miroir. Il rappelle combien l'obsession de l'espace chez Cailloux se signale par des effets déréalisants. On parle beaucoup de déréalisation pour le névrosé obsessionnel de psychasthénique. Parce que dans le mimétisme, si on suit Cailloux, ce n'est pas le sujet qui se projette dans le monde, c'est un peu le schéma qu'on connaît bien, c'est l'espace qui se reflète sur le sujet au point où le sujet ne se distingue plus du reste du monde. Si vous allez voir, par exemple, les ouvrages de Rosalind Krauss sur la photographie surréaliste, elle montre qu'il y a un enjeu esthétique que Cailloux formule là qui se retrouve dans la photographie de Man Ray, etc. Encore. Le monde, l'espace extérieur se reflète sur le corps et par conséquent le corps disparaît. On est devant quelque chose au fond qui ressemble à la fin de la tentation de saint Antoine de Flaubert. Le rapprochement est peut-être étonnant, c'est pas moi qui le fais, c'est Cailloux qui fait ce rapprochement-là. Cailloux a lu le texte de Flaubert et il compare la fin de la tentation de saint Antoine à un moment psychasthénique. C'est-à-dire que pour lui, c'est le mimétisme généralisé à la fin du texte de Flaubert, puisque les végétaux ne se distinguent plus des animaux, les plantes se confondent avec les pierres. Tout est dans tout, tout se reflète dans tout, et par conséquent, il n'y a plus rien de distinct. Ce qui préside pour Saint-Antoine au désir de se fondre dans la matière, c'est la fin de la tentation de Saint-Antoine, c'est la dernière tentation que de descendre au fond de la matière. Pour Cailloux, c'est l'abandon de la forme distincte, c'est la fin des identités dans un jeu infini de reflets. Lacan va aussi revenir à la question du mimétisme dans le séminaire 11. Il revient à Caillois pour dire que se voir soi-même comme semblable à l'espace, et là, je vous prie de regarder encore le papillon qui est derrière moi, n'être plus rien qu'une surface indifférenciée, selon quoi je fais tâche, comme dit Lacan. Je fais tâche. C'est aussi se perdre de vue sur fond d'arrière-plan. C'est se livrer à quelque chose comme une captation imaginaire, ou, comme dit Lacan, je suis là, mais en tant que je suis dans le tableau. C'est-à-dire, pas en tant que sujet, mais en tant que tâche dans un tableau général. Tableau qui n'est plus un espace vécu, mais un espace surplombé où je me vois en train de me voir. Ou, pour le dire dans l'optique de l'obsessionnel, où je me vois me voir faire le mort. Pour Louis Combet, c'est dans le blanc qu'on se fond pour disparaître à soi-même. Le miroir dans lequel on se regarde, où l'on se voit se voir, c'est un miroir blanc dans lequel on se voit blanc sur blanc. Le blanc qui envahit l'espace se reflète sur un blanc subjectif, une absence, qui est en fait un effacement, et où le blanc au dehors n'est rien d'autre que le reflet du blanc au-dedans d'un être effacé. Je vais terminer là-dessus. Je dirais pour conclure que ici, le miroir n'a pas pour fonction de confirmer l'image, il l'abolit. Le miroir n'est pas cette surface où le sujet y retrouve son image, la confirmation rassurante de son image. C'est plutôt un espace qui se confond avec l'espace, où le sujet ne se distingue plus lui-même. Ce qui, paradoxalement, est encore une manière de se voir, à être encore un point, une tache visible dans le miroir, même s'il s'agit d'un miroir blanc où l'on se voit blanc sur blanc, même s'il s'agit d'un miroir censé renvoyer le sujet à sa propre disparition, au destin de son effacement, comme pour reprendre une image de Louis Combet, et où en même temps, et paradoxalement, il s'expose, et où il se voit faire le mort. Je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup.